Bienvenue à ce discours. Donc les discours, c'est un moment où je peux aborder certains sujets qui sont des thèmes d'exploration, parfois des questions, ou parfois des choses avec lesquelles j'ai pas mal cheminé, et apprendre de votre côté comme des questions, d'une façon générale, pas prendre comme une valeur définitive en fait, mais plutôt des questions à se poser. L'idéal est de ressortir avec suffisamment de questions en fait pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu, aborder le thème de la critique intérieure, qui est un thème qu'en fait j'aborde pas souvent. Et je ne sais pas pourquoi il est venu là, mais voilà, en tout cas c'est celui-là. Et pour démarrer, je repensais à l'introduction que Tala nous donnait hier et dans laquelle elle nous expliquait que dans la médecine chinoise, il y a divers éléments qui participent à la bonne santé et que deux éléments importants, mais qui n'étaient pas les seuls, mais qui sont un élément important, elle prenait l'image d'un camembert et deux grosses portions du camembert étaient, une était l'alimentation et l'autre était le bien-être psychique. Je ne sais pas si c'est le terme que tu as utilisé, Tala, mais. Et en fait, en y réfléchissant un peu, je cherchais un peu les liens entre les deux. Et je voyais, je cherchais un petit peu tout à l'heure, et je voyais en fait qu'il y a un lien entre ces deux-là. Il y a une espèce de cercle où ils se nourrissent l'un et l'autre, et le cercle est. Donc, ce que je trouvais dans mes recherches, c'est que donc le stress libère du cortisol, ok, et qui ça en fait libère du sucre qui est stocké dans le foie et le libère dans le sang. Et ce, visiblement, pour nous permettre d'avoir l'énergie pour réagir s'il y a nécessité de réagir ou d'être hyper focus et concentré, ça nous donne un surcroît d'énergie. Et par ailleurs, je voyais que le cortisol, il fonctionne de pair avec la sérotonine qui, elle, augmente la pulsion alimentaire sucrée quand on vit du stress. Donc quand on vit du stress, on va avoir envie de manger du sucre ou de manger. Alors, c'est pas du sucre. Du coup, j'ai regardé pour moi-même un petit peu comment c'était, et je le vois en fait cette tendance en fait quand les choses sont un peu difficiles, qu'il y a un stress sous-jacent parfois, cette envie d'aller vers de la nourriture et vers des nourritures assez satisfaisantes, c'est-à-dire pleines de goût, pleines de sel, pleines de sucre, pleines de une tendance à aller vers là. Comme si c'était pour aller chercher une sensation de bien-être. Et donc je trouvais ce jeu-là un petit peu dangereux en fait, du stress qui libère du sucre dans le sang, et une fois qu'il y a du sucre dans le sang, il y a aussi envie de plus de sucre, et il y a un loop là qui est risqué en fait, et qu'on connaît peut-être. Et donc ici, dans cette retraite, on entend parler d'alimentation, on explore notre relation à l'alimentation. Et donc c'est parce que déjà on est concerné en fait par la manière dont on s'alimente. On a des questions par rapport à la validité et à la est-ce que la manière dont on s'alimente est vraiment la bonne manière de s'alimenter? Ou alors on a déjà des réponses à ça, mais on ne sait pas exactement comment se transformer. Du coup, on vient vivre l'expérience ici de voir comment adopter d'autres habitudes alimentaires. Mais on sait, je pense que ce serait. Par exemple, j'aimerais bien savoir si ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfaitement en accord avec ses habitudes alimentaires? Vous pouvez lever la main. Ok. Ok. D'accord. Bien. Et donc, ça touchait à autre chose pour moi de voir quand on n'est pas parfaitement en accord avec quelque chose qu'on sait. Du coup, ça peut réveiller pour beaucoup d'entre nous un jugement. de nous-mêmes. Hein, tu fais pas ce qu'il faut. Hein, bah, si tu fais comme ça, c'est sûr que tu peux pas vraiment être en bonne santé. Et de là est venue cette idée en fait de parler de la critique intérieure, parce que ça, en fait, cette attitude de cette voix jugeante qui est là dans ce cas de figure que je viens de présenter, mais qui est là pour certaines personnes d'une façon très très régulière. Et pour tout le monde, ou pratiquement tout le monde, cette habitude, ces commentaires négatifs à propos de nous-mêmes pointent leur nez de temps en temps. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça génère un certain mal-être, une sensation de danger, de ne pas faire ce qu'il faut, donc on ne va pas y arriver, on ne va pas arriver à être heureux, on ne va pas arriver à être en bonne santé. Et du coup, ça génère du stress. Et hop là, ça renvoie encore une couche. Donc ces couches-là, comme elles sont intriquées, je trouve que c'est important qu'on essaye de les voir un peu correctement, de voir un peu voilà, la relation entre la critique intérieure, l'envie de changer nos habitudes alimentaires, le fait que quand on s'alimente d'une certaine manière, ça crée du stress, quand le système digestif... Ça, je l'ai senti pour moi-même ces dernières années. J'ai eu des difficultés de digestion depuis 2 ans. J'ai des difficultés de digestion. Eh bien, je vois plus de stress. Et je me suis demandé, et c'est une question très intéressante, est-ce que c'est parce que dans ma vie, je vis un moment avec plus de stress que j'ai des difficultés de digestion? Ou est-ce que c'est parce que j'ai des difficultés de digestion que j'éprouve plus de stress? Ou est-ce que c'est comme le fait la poule? On ne sait pas qui vient en premier, comme s'ils venaient ensemble, en fait. Hein, c'est des questions qui sont intéressantes. Mais en tout cas, je vois clairement le lien. Ce n'étaient pas des questions qui m'animaient encore il y a quelques années, mais là, en fait, elles se sont invitées dans ma pratique et c'est des questions que je trouve très, très intéressantes. Et d'une façon générale, pas simplement autour de l'alimentation, mais d'une façon générale, j'aimerais bien attirer dans cette retraite. L'attention, si vous en avez envie, attirer l'attention sur la voix critique, la voix négative, la voix qui condamne, en fait, qui émerge ici et là, de temps en temps, ou, comme je le disais, pour certains, qui est très très présente. Est-ce qu'on pourrait utiliser pendant cette retraite, utiliser cette retraite pour essayer de la voir un peu différemment? Ou de réagir différemment vis-à-vis de cette voix. Parce qu'on le voit, elle a, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation et de la santé, elle a quelque chose de très toxique dans le fait qu'elle crée cette dépendance à l'injection de sucre dans le sang et du coup cette demande. Mais cette voix aussi qui nous empêche d'être à l'aise avec nous-mêmes, qui nous empêche de répondre d'une façon très créative en fait aux situations qu'on rencontre, parce qu'on est minimisé, on ne se sent pas capable. Cette voix aussi qui nous met à distance de nous-mêmes, mais aussi à distance des autres, où relationnellement c'est difficile quand on est dans un moment où il y a une perte de confiance en soi-même et qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs à propos de nous-mêmes et de projection négative de ce qui va nous arriver de pire, à ce moment-là, on n'est pas non plus vraiment à même d'être en lien, comme si on était à l'aise avec nous-mêmes, en fait. Donc, est-ce qu'on peut voir les moments où elle est là? Les moments où, dans notre tête, il se dit des choses à propos de nous-mêmes qui sont pas sympas, en fait. Et est-ce qu'on peut ne pas les prendre pour argent comptant? Ne pas forcément. C'est étonnant ça, c'est quelque chose qui. Ça fait longtemps que ça m'étonne. Pourquoi est-ce qu'on croit que cette voix a raison? Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'autorité à cette voix? C'est étonnant ça. Quand on est en méditation, on médite et puis. Un moment, donc on est perdu dans nos pensées, hein, ça c'est, je pense que tout le monde connaît. Et puis, ça fait déjà la 30e fois, donc là il y a ce souvenir, parfois on parle la pratique de la méditation, on l'appelle une pratique de se souvenir. Donc on se souvient qu'on n'était pas là pour ça, hop, on revient à la conscience. À ce moment-là, il peut y avoir cette voix qui vient et qui dit ouais, j'y arriverai jamais. Vraiment, je suis nul en concentration, en fait. Et c'est, ça fait des années maintenant que je médite. Et je suis toujours pas meilleur en concentration. Franchement, j'y arriverai jamais. C'est peut-être parce que il s'est passé ça dans ma vie ou je fais pas assez d'efforts aussi. Déjà, si au moins j'arrive à avoir une pratique régulière. Hein? Et puis aussi, si je mangeais autrement, je sais qu'il y a des nourritures qui m'agitent. Allez, c'est parti. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cette voix-là, c'est nous qui parlons, alors que les autres voient tout le temps de la distraction? On dit ça, c'était de la distraction. Et ça, c'est moi qui parle. Pourtant, c'est tout des pensées. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de laisser ces voix auxquelles on donne autorité comme étant juste des pensées, parmi les pensées? Parce que quand on fait ça, bien sûr, on rajoute des pensées sur les pensées, on revient toujours par la respiration, on revient toujours par la présence, on s'éloigne de nouveau, on s'est de nouveau fait prendre. Mais en plus, on ne se permet pas de faire l'expérience de qui on est vraiment dans ce moment-là. Et je me suis souvenu d'une pub que j'avais vue et qui était vraiment bien faite pour des produits de beauté. Et ils avaient mis du temps à la faire, celle-là. Ils avaient fait des interviews de personnes célèbres. Et ils leur demandaient, en fait, quelle était leur critique intérieure. Qu'est-ce qu'ils se disaient dans la tête. Et il y avait des personnes qui avaient été très, très authentiques et qui disaient, OK, là, spécifiquement, je me rappelle de cette, je ne sais plus qui c'était, mais c'était, je crois que c'était une actrice, et qui se disait qu'elle était nulle, qu'elle était trop grosse, que si les gens savaient qui elle était vraiment, ils ne l'adulaient peut-être pas de la même manière, hein, parce que ça, c'est un des gros trucs de la critique intérieure. C'est de faire une espèce d'espace privé en disant si les gens savaient. Ah, si les gens savaient. Et du coup, être obligé tout le temps de se cacher et de prétendre. De se dire que en plus elle était pas intelligente, enfin voilà, elle se disait plein de trucs méchants et là elle confiait ça à, c'était je pense pour ils avaient prétendu que c'était pour une enquête ou un truc comme ça. Puis elle a laissé passer quelques mois et un jour, et c'est ça la vidéo qu'on voit, il y a deux comédiens qui vont s'asseoir à une table en terrasse et elle est assise à côté. Et les deux comédiens, ils ont appris tout ce qu'elle se disait dans sa tête. Et donc, c'est un homme et une femme. Et l'homme comédien, il commence à parler à la femme qui est en face de lui, en lui disant, franchement, je trouve pas que t'es trop grosse. Hein? Et puis, mais t'es même pas intelligente. Pour qui tu te prends? Mais moi, je te connais. Si les gens, ils te connaissaient. Et elle entend tout ça. Et on la voit, elle fulmine, et à un moment, elle se lève, elle dit, mais monsieur, mais comment vous pouvez parler comme ça? Et là, elle s'insurge, en fait. Mais le comédien ne disait que ce qu'elle se disait à elle-même. Et c'est énorme, en fait, ce qu'on peut tolérer de cette voix, jusqu'où on peut aller dans le fait d'accepter la manière dont une voix à l'intérieur nous parle. Et c'est quoi cette voix, en fait? C'est pourquoi est-ce qu'on lui donne autant de force, de pouvoir, d'authenticité? Pourquoi est-ce qu'on la croit plus haute que les autres? Si on remarque de nouveau en méditation, quand on est, par exemple pour moi, quand je suis perdu dans mes pensées, le moment où je vais remarquer que je suis perdu dans mes pensées, je vais revenir à ma respiration. C'est juste une habitude, automatiquement. Dès que je vois que je suis perdu dans mes pensées, je vais venir à ma respiration et de là, directement à la sensation d'être présent. C'est un peu ce que je guidais tout à l'heure. Avant, il y avait une étape supplémentaire qui était, il y avait une voix qui disait « Reviens à ta pensée ». Ça, c'était les instructions. Ah, parce que et si vous démarrez dans la méditation, il est probable qu'il y a encore cette voix qui est là et qui dit, au moment où vous remarquez que vous êtes distrait, il y a une voix qui vient et qui dit, reviens à ta respiration. C'est sous forme d'une voix vraiment, que vraiment c'est une pensée qui émerge et qu'on entend, revient à ta respiration. Quelle est la nature de cette voix? C'est juste une répétition. C'est juste un automatisme. C'est pas quelqu'un qui est dans notre tête et qui parle. C'est juste un automatisme. Et la critique intérieure, c'est pareil. Ce n'est rien d'autre qu'un automatisme. Ce n'est pas une personne qui est plus nous que les autres automatismes. C'est des habitudes de penser. C'est des habitudes de se concevoir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des habitudes de se penser et de se concevoir qui, même si elles viennent, oui, de la petite enfance, oui, de notre, du fonctionnement de notre société, beaucoup du fonctionnement de notre système scolaire et de la possibilité du fait que faire des échecs n'est pas reconnu comme étant une bonne chose dans un processus d'apprentissage, ça c'est une des grandes catastrophes de notre système scolaire, c'est de ne pas favoriser, de donner peur, la peur de l'échec. Et dès qu'on est, on est en échec, alors on n'est pas bon, on n'est pas quelqu'un, on a des moins beaux points, on est un mauvais élève, et puis finalement, notre image de nous-mêmes s'abîme. Donc oui, la critique intérieure, c'est des habitudes qui viennent de, probablement pour la majorité, de la tendre enfance, mais en même temps, elle n'a aucun ancrage et elle doit se recréer à chaque fois. Même si elle vient de loin, à chaque fois, c'est comme une grille qui se recrée et qui reprend la même, un schéma, une habitude, une manière de faire. Dans le bouddhisme, il y a très peu de références à la, dans, en tout cas dans les textes originaux des discours du Bouddha. Je n'ai jamais vu aucune référence à la critique intérieure. Et j'entendais un jour un de mes enseignants, Robert Béat, qui disait la même chose. Et lui a beaucoup plus de connaissances des textes que moi. C'est qu'il n'avait jamais trouvé aucune référence à la critique intérieure, en fait. Et il y a cette histoire aussi avec le Dalai Lama, certains d'entre vous la connaissent, cette histoire où il est en conférence avec des Occidentaux. Et donc il est avec son traducteur et il demande, il est avec des maîtres de méditation occidentaux, et il leur dit, d'après vous, quelle est la plus grande difficulté que vos élèves rencontrent dans la pratique de la méditation ? Et alors, les différents enseignants de méditation discutent et tout ça, et puis ils en arrivent à la conclusion que c'est la critique intérieure. Et donc, ils disent la critique intérieure. Et puis, le traducteur un peu essaye d'expliquer au Dalai Lama, et le Dalai Lama, il ne comprend pas. Et en fait, c'est parce que ce n'est pas un concept qui est présent, en fait, chez eux. Parce que, et ça, on a dans les textes du bouddhisme, de l'hindouisme, ce qu'on a, c'est des forces extérieures. Hein, dans le bouddhisme, il y a Mara. Mara qui est là jusqu'à la fin de la vie du Bouddha. Qui vient, Mara qui, juste avant l'élimination du Bouddha, quand le Bouddha va arriver à cette réalisation de sa nature, quoi que ce soit que ça veuille dire, il y a cette force extérieure qui arrive comme un démon et qui lui dit, qui essaye déjà plusieurs stratégies pour l'empêcher d'arriver à la réalisation, pour le tenir petit, pour le tenir sous son contrôle. Et puis, finalement, quand elle voit qu'aucune de ces stratégies ne va fonctionner, elle lui dit, mais pour qui tu te prends ? Voilà, ben ça, au moins, là, on peut reconnaître. Ça, c'est comme nous, on appelle ça la critique intérieure. Dans le bouddhisme, l'hindouisme, pour eux, ce sont des forces extérieures. Pour nous, c'était des forces extérieures. Avant, c'était les combats de Dieu et du diable. Hein? Et on était, en tant qu'être humain, pris dans ces combats de Dieu et du diable. Et je regardais, là, c'est depuis, en fait, principalement l'avènement de la psychologie, en tout cas la psychologie comme démarche scientifique, il y a moins de 150 ans, en fait, que ça existe, la psychologie comme démarche scientifique, qu'on a considéré que tout ce qui nous arrivait était du fait de notre individu. Et de là, ben, on a grand pouvoir de changement, parce qu'on peut se transformer d'une manière ou d'une autre, on a le pouvoir sur tout, mais en même temps, on a la responsabilité totale de ce qui nous arrive. Donc tout, quelque part, peut être interprété comme de notre faute. Et c'est intéressant en fait qu'on se considère maintenant comme complètement des individus, c'est-à-dire des êtres complètement séparés, pas soumis à ces grands mouvements qui ont toujours affecté l'humain. Avoir l'expérience de l'humain, il me semble, était composée de plein de forces qui ne faisaient pas forcément partie de je, mais qui actaient dans ma réalité. Et maintenant, il y a plus, c'est presque comme ce jeu dans cette forme de psychologie, et c'est presque comme une monoculture, un monothéisme. Presque comme un monothéisme, le jeu. Et comme on le sait, une monoculture est toujours plus en danger d'attraper des maladies qui se répandent. Pour Bouddha, ce n'était pas lui qui avait un doute, ou avant ça, il y avait du désir, ce n'était pas lui qui avait du désir, c'était des désirs qui venaient. Et pour moi, je n'ai pas une préférence plus en faveur d'un que de l'autre, mais lequel fonctionne le mieux, ça c'est intéressant. Quelle est la manière de voir qui fonctionne le mieux, qui nous libère ? Donc il me semble que sans devenir complètement schizophrène, on pourrait aussi se mettre parfois à discuter un peu avec cette critique. C'est dans un discours de Thich Nhat Hanh aussi qu'il parle de prendre le thé avec Mara. Mara qui n'est pas que la critique, voilà, mais qui est le doute. Hein. Et où il raconte toute une histoire où le Bouddha est un enseignant maintenant depuis longtemps, il a connu sa réalisation, et un jour il y a Mara qui vient le visiter. Et il y a Ananda, je crois que c'est son cousin, qui est aussi celui qui a écrit un maximum des enseignements qui retenait en fait, pas qui a écrit, mais qui retenait des enseignements du Bouddha, et qui était son attendant, donc il était toujours avec le Bouddha, et Ananda était devant la porte et ne voulait pas laisser rentrer Mara. Il disait, mais non, mais toi, tu es son ennemi. Et puis le Bouddha, il voit Mara, il fait, ah, mais vas-y, rentre. Il l'installe. Et voilà, dans cette histoire, il y a une notion de ne pas forcément créer un ennemi, mais plutôt de s'intéresser. S'intéresser à la critique intérieure. S'intéresser à cette voix qui nous dit souvent qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable. Parfois, c'est subtil. Hein. Je me demande si on peut... Si, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Dans quelle mesure est-ce que quand on vient dans une retraite de méditation comme ça, on y vient déjà avec le frein qui est tiré, en se disant j'y vais, mais bon, il ne faut quand même pas en espérer trop parce que ça fait déjà longtemps que je pratique ou parce que je ne suis pas capable de... Ou, hein, et on démarre la retraite déjà avec un boulet au pied qui va nous empêcher en fait de pleinement être là et de pleinement faire fruit sans même avoir... une recherche immense, mais en étant non encombré par tous ces doutes. On se ferme déjà en partie la porte. Donc quand on repère, parfois même c'est assez subtil, cette sensation « je ne le vaux pas » ou « je ne suis pas capable ». Parfois c'est assez subtil, mais de la repérer, et du coup de l'inviter, et de passer un petit arrêt, et de lui poser des questions, d'essayer de relâcher, même comme de la personnifier, comme si c'était une personne extérieure. Et parfois, peut-être pas tout le temps, mais parfois ce qu'on peut réaliser, c'est qu'en fait, cette voix, elle nous veut du bien en fait. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'on soit bien, qu'on y arrive. Et du coup, alors sa stratégie est assez lamentable, mais bon, parfois, quand on est parent, on remarque qu'on a des stratégies lamentables. Et cette voix-là, parfois, En fait, ce qu'elle voudrait, c'est que c'est comme pour nous motiver, comme pour nous pousser, parfois, pas tout le temps, comme pour nous protéger parfois. Et on peut parfois se demander et demander à cette voix qu'on a personnifiée de dire et si j'y arrive à être comme tu voudrais, qu'est-ce que tu deviens, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est fini, je ne vais plus jamais t'entendre? Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense qu'il y a un discours sur le site qui parle de cette approche qui est l'approche du RAIN. En fait, ça peut aussi être une approche pour accueillir justement Mara ou accueillir la critique intérieure. Donc le RAIN, c'est quatre lettres qui veulent dire en fait c'est un mnémonique. Non, c'est en anglais ça, qui décrivent une démarche, une attitude. Donc quand il y a une critique intérieure, si on veut vraiment l'accueillir, il faut déjà reconnaître qu'elle est là. Ah tiens, un moment de critique intérieure. Parce qu'on peut en avoir, mais on ne sait pas qu'on vit une critique intérieure. Hein? Donc là, c'est le R, c'est reconnaître. Si on ne voit pas qu'il y a une critique intérieure, ce n'est pas possible de l'accueillir, c'est sûr. Reconnaître, hein? Critique intérieure. Et puis accepter. Okay? Accepter qu'elle est là. C'est pas se dire, oh non, pas encore cette critique intérieure, je reviens à ma respiration. Non, accepter qu'elle est là, si on veut passer un moment avec. L'accepter, et puis s'intéresser. S'intéresser à la critique intérieure. Où est-ce qu'on la sent dans le corps, la critique intérieure? Est-ce qu'elle s'inscrit comme une tension quelque part, dans la respiration, dans le visage, dans les mâchoires, dans le pouls peut-être, on peut la sentir? Une certaine tension? Si c'est une grosse histoire, la tension va être très visible dans le corps, et sinon, il va falloir regarder d'une façon un peu plus subtile, mais quelque part, elle doit être là, parce qu'elle crée une tension. Le corps est sensible à ça. Il exprime la tension. Donc, s'intéresser. Est-ce qu'il y a une tension? Qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette voix? On peut lui demander, qu'est-ce que tu voudrais exactement? Parce que souvent, en fait, ce n'est pas clair. Souvent, en fait, la critique intérieure, elle tire sa force du fait qu'elle n'est pas claire. Elle tire sa force du fait que ça reste comme un truc vague et insaisissable, brumeux, obscur. Mais si on regarde vraiment et qu'on l'appelle sur le devant de notre conscience avec bienveillance, pas comme si on entamait un combat, en disant « Ok, c'est ce que Bouddha fait avec Mara, il invite à boire le thé ». Ok, ben, rencontrons-nous. J'aimerais te connaître. Puisqu'on habite ensemble, j'aimerais te connaître. Tu as des demandes, tu as des exigences. Je vois que tu me fais la vie très très difficile. Est-ce qu'on peut discuter? Quelles sont ces demandes exactement? Est-ce que ça peut être plus précis? Tout ça, c'est s'intéresser. Le I de RAIN, R-A-I. Et le N, c'est la non-identification. La non-identification, là c'est un peu plus compliqué à articuler, mais on pourrait dire que ces pensées qui disent « t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ça, tu devrais ceci, tu fais jamais ça » et tout ça, ces pensées sont des constructions qui deviennent notre réalité parce qu'on croit en elles, mais qui n'ont rien à voir avec notre essence et qui en est vraiment. Et ce sont des constructions qui deviennent notre réalité parce qu'on leur accorde du crédit et du coup on leur donne notre attention. Vous savez que notre attention, en fait, matérialise notre réalité. Là où on met notre attention, c'est ça qui devient réel pour nous. C'est ça qui devient notre expérience. Donc la critique intérieure devient notre réalité parce qu'elle arrive à captiver notre attention. Elle devient notre réalité, pourtant, elle ne dit rien de ce qu'on est vraiment. Et quand on sait ça, alors on relationne avec la critique intérieure d'un endroit différent. Dans le bouddhisme, la solution ultime à la critique intérieure, l'élixir qui peut soigner de la critique intérieure, c'est la bienveillance. Hein, c'est un peu l'antithèse. Et donc, et certains d'entre vous connaissent et certains d'entre vous pratiquent ces pratiques de bienveillance. Et j'en guiderai dans cette retraite. Mais c'est vraiment si ça vous parle, là, si vous sentez que, voilà, elle est bien présente, cette critique intérieure. Et oui, elle abîme votre vie, elle vous empêche de déployer pleinement vos ailes. Si vous sentez ça, à ce moment-là, c'est la pratique number one, la bienveillance. C'est le fait, en fait, de commencer à se souhaiter à soi-même et aux autres, mais là, dans ce cas-ci, beaucoup à soi-même, d'être heureux, d'être en bonne santé et de réussir dans les choses qu'on entreprend. Et de trouver les chemins qui nous libèrent de la souffrance. Et peu à peu de découvrir la profondeur des souhaits qu'on a et de réussir à les exprimer et à se les souhaiter à soi-même. Et en faisant ça, on crée des habitudes de pensée. Hein, quelqu'un qui pratique comme ça régulièrement, en fait, ça devient une habitude de pensée. Ça va devenir normal de se souhaiter d'être heureux. Alors qu'au début, pour certains, c'est vraiment pas évident de se souhaiter d'être heureux. Parce qu'en fait, on n'y croit pas vraiment, à cause de la critique intérieure. Il va dire, oui, mais si tu veux être heureux, il faudrait déjà que tu fasses autrement que ce que tu fais. Il faudrait déjà que tu arrêtes de fumer. Tu peux pas être heureux si tu fumes. Blâme. Cassé. Mais indépendamment, donc la bienveillance, c'est vraiment la capacité en fait de se souhaiter les choses les plus belles, indépendamment du fait qu'on correspond à l'image qu'on a de nous-mêmes ou de ce qu'on devrait être. Même si on n'est pas la personne qu'on voudrait être, on a le droit d'être heureux ou pas? Une question. Est-ce que si on n'est pas la personne qu'on voudrait être, on a le droit déjà d'être heureux? Ou est-ce qu'on doit attendre d'être la personne qu'on voudrait être avant de pouvoir vraiment être heureux? C'est tendu, à mon avis. Parce que même la personne qu'on voudrait être, l'idée de la personne qu'on voudrait être change. Moi, j'ai un peu l'impression que ça ressemble à un horizon. C'est très beau, mais on ne l'atteint jamais. On peut toujours marcher vers là, et c'est une bonne direction, mais il ne faut pas attendre d'être arrivé à l'horizon pour être heureux. Donc voilà, c'est quelques pistes que je voulais vous proposer d'exploration qui peuvent être très utiles dans cette retraite et qui sont absolument parfaitement dans le thème de nourrir son corps et son esprit. Parce que comment est-ce qu'on nourrit notre esprit quand on donne autant d'attention, on laisse rentrer autant de malveillance vis-à-vis de nous-mêmes? C'est de la nourriture de l'esprit. Donc, portez attention, essayez de devenir sensible et attentif à la voix critique, qui est parfois tellement familière qu'elle fait partie du paysage et qu'on ne la voit même plus. À ces voix qui nous font sentir qu'on ne vaut pas suffisamment, ou qu'on n'est pas vraiment capable, ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant pour pouvoir être. Et si il y a un moment où vous la repérez, bingo, super. Si c'est un bon moment, eh ben, prenez le temps de rester un peu avec, de discuter. Essayez de sentir dans le corps, pour devenir familier en fait. Parce que si cette critique a un rôle à avoir, à ce moment-là, par le fait qu'on lui accorde de l'attention, elle va prendre sa place. peut-être qu'elle va, elle va pouvoir, peut-être que c'est, si c'est un aspect bienveillant qui voudrait en fait qu'on soit bien, mais qui, vous savez, parce que ça arrive, hein, en éducation, on voit je vois parfois des parents, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais ils sont tout le temps en train de les rabaisser. Parce qu'ils pensent qu'en les rabaissant tout le temps, en lui disant, ouais, mais tu n'y arrives jamais, mais nanana, c'est une manière de les stimuler pour qu'ils y arrivent. C'est tordu. Mais ça reste, c'est délire, mais ça reste un acte d'amour. Et il se pourrait que dans notre critique intérieure, il y ait une base d'amour quelque part, mais qui dysfonctionne. Et si on prête notre attention, l'attention, elle a ça de beau, en fait, que elle remet chaque chose à sa place. Elle nourrit les choses et elle rééquilibre les choses. Comme un enfant qui est en difficulté, soit qui se fait mal ou bien qui est hyper agité, ce qu'il a besoin, c'est d'attention. Ça va l'aider, en fait, à reprendre un endroit équilibré en lui-même. Et ça fait ça aussi avec nos émotions, avec nos pensées, hein, quand on porte attention, pas directement aux pensées, mais quand on porte attention à notre univers intérieur, les pensées reprennent leur place. Alors que si on les laisse sans attention, elles se chevauchent, les histoires ne se finissent pas, il y a quatre histoires en même temps, il y a des voix dans tous les sens. Mais dès qu'on ramène de l'attention, la pensée va se réorganiser et on peut le remarquer, hein, les pensées vont venir plus l'une après l'autre. Parfois, il y aura même de l'espace entre les pensées. Et pareil pour la critique intérieure. Si on y porte attention, il va y avoir une certaine familiarité, elle va recevoir une certaine attention qui va permettre à ce qui en nous veut du bien, peut-être, de reprendre sa place et à ce qui est des schémas simplement dysfonctionnels, de ne plus prendre place. Donc cet accueil et cette ouverture à cette voie habituelle de critique destructive, destructrice, j'hésite toujours avec l'anglais, destructrice. Cette capacité de l'accueillir et de rester avec plus l'entraînement de l'esprit à avoir une tournure bienveillante pour que ça devienne une habitude de l'esprit, à force de répétition en fait, et sans aucun doute, mais absolument sans aucun doute, transformateur. Et il y a peut-être des gens ici d'ailleurs qui pourraient en attester, qui sont des gens qui ont déjà utilisé et incorporé dans leur méditation des moments, des temps de bienveillance. Et qui en voit l'impact sur les habitudes de pensée, les automatismes. Et comme l'amour est beaucoup plus silencieux, le fait de s'aimer va créer beaucoup moins de paroles dans notre esprit. C'est un peu comme, ça a toujours été comme ça, c'est comme les bouquins, vous voyez, les bouquins, vous commencez un gros pavé comme ça, d'une histoire qui va être absolument catastrophique. Et au début, c'est comme tout va bien. Un couple heureux avec les enfants, et là, on le sent déjà arriver. Le tout va bien, c'est les 50 premières pages. Et les 500 pages suivantes, c'est tout ce qui ne va pas bien. Ou comme dans un couple même, il va y avoir la tendance de toujours parler de ce qui ne va pas, mais ce qui va bien, il n'y a pas besoin de mots. Ça va bien. Hein? Et l'amour, c'est comme ça. Quand il y en a. Suffisamment de connexion à soi-même et d'affinité, d'amour à soi-même, en fait, il n'y a pas beaucoup de mots parce qu'il n'y a pas beaucoup de conflits. Mais dès qu'il y a beaucoup de conflits, en fait, il y a beaucoup de mots et beaucoup donc beaucoup de pensées. Et c'est difficile alors de méditer dans ce contexte parce que toutes ces pensées, elles absorbent notre attention. Et pendant que notre attention est dans ces idées à propos de nous-mêmes, on n'est pas en contact avec qui on est vraiment. Ça crée énormément de tension. Et on ne fait pas l'expérience de ce qu'on est dans le silence. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.